Dans le quotidien La Croix du 19 juin 2025, un article mentionnait une progression des ventes de Bibles. La première librairie religieuse de France, pouvait-on lire, compte au mois de mai 10 000 Bibles vendues depuis janvier, contre 8 500 à la même période en 2024. L'évolution à l'année montre un cumul de 21% de progression, confirmant ainsi une tendance à la hausse depuis 3 ans. Alors comment faut-il interpréter ces chiffres ? De quoi sont-ils révélateurs ? Et au-delà de cette tendance, que fait-on et qui devient-on quand on se met à lire la Bible et en particulier les évangiles ? En d'autres termes, à quoi s'expose-t-on ? C'est sur ces questions que s'ouvre le cinquième et dernier épisode du podcast « À la découverte de la Bible, une visite guidée de la parole ». Et nous retrouvons le père Sylvain Gasser, religieux assomptionniste.
Ce n'est pas tant le succès éditorial ou des éditeurs qui vendent des Bibles qui m'intéresse. Je préfère qu'on dise que la Bible ne cesse d'être lue et que sa lecture est en augmentation. Je crois que depuis, c'est les acquis du Concile Vatican II que d'avoir redonné le goût de la parole de Dieu au peuple chrétien. Mais il faut le redire. Je pense qu'il y a une ou deux générations qui est entrée dans ce courant exégétique de comprendre les Écritures parce que je veux les lire. Il y a des tas de revues, il y a des tas d'applications qui aujourd'hui vous offrent un texte biblique tous les jours. Donc on lit beaucoup plus la Bible qu'il y a 50 ou 60 ans, ça c'est un fait. Mais il faut le redire, il faut toujours insister là-dessus. Parce que moi, que chacun ait une Bible chez soi, c'est peut-être bien.
Mais si c'est dans la bibliothèque et que ça ne bouge pas, ça n'a pas d'intérêt.
La Bible doit rester page ouverte, comme notre humanité doit rester main ouverte, cœur ouvert, table ouverte, maison ouverte. Enfin, ouvrons tout cela. Ouvrons tout cela. Donc, qu'on achète beaucoup de Bibles, tant mieux pour les éditeurs qui vivent bien. Et je suis un éditeur, donc je suis content. Mais ce n'est pas ça le plus important. Est-ce qu'on l'a lu, la Bible ? Et quels moyens je donne au lecteur pour qu'il comprenne cela. Donc ça, c'est la vraie question, elle est là. Parce que on l'achète parfois en disant « c'est bien que je l'ai parce qu'un jour elle pourra me servir » ou « c'est bien que j'ai une Bible parce que ça fait partie de l'objet que tout chrétien doit avoir ». Et oui, et bien sûr. Mais comment moi j'entre dans l'intelligence des Écritures ? Comment je fais de la parole mon compagnon de vie ? Comment je fais de l'Écriture cette révélation d'un Dieu qui ne cesse de se révéler à moi à partir du moment où je le cherche, où je scrute ce qu'il me dit dans les écrits, ce qu'on a cessé de dire à travers tous nos échanges.
Mais peut-être que c'est à mettre en parallèle, alors je ne sais pas si chaque catéchumène achète la Bible, mais en tout cas avec...
J'espère en tout cas, oui.
Ou qu'on la leur offre. Oui. Les catéchumènes sont donc ces personnes adultes qui demandent le baptême et qui sont baptisées en général la nuit de Pâques. Le chiffre augmente lui aussi chaque année en France, de manière quand même assez notable. C'est à mettre en résonance, selon vous ?
Alors ça, c'est beaucoup plus complexe, parce que si on faisait un vrai sondage, le temps que les catéchumènes consacrent à la lecture de la parole de Dieu, c'est pas sûr que ce soit aussi fort qu'on l'imagine. Parce que c'est plutôt l'entrée dans un corps religieux, dans une religion, la religion chrétienne. Effectivement, les chiffres des jeunes adultes montent pour plusieurs raisons. J'en vois trois. Il y en a peut-être d'autres, mais j'en vois trois. La première, c'est qu'ils font partie de cette génération de l'an 2000. En ce temps-là, les parents disaient, de manière très heureuse, il ou elle choisira plus tard le baptême ou pas.
Vous êtes ironique quand vous dites de manière très heureuse ?
Oui, d'accord. Parce que de fait, on ne choisit pas. Si on n'a pas eu le goût et l'appétit qui a été aiguisé pour qu'un jour les parents disent « mais maintenant, voilà, on sera très heureux que tu demandes le baptême ». Non, si tu choisiras par toi-même, non, il faut qu'il y ait une rencontre. Donc, s'il n'y a pas de rencontre, on ne demande pas le baptême, ce qui est un peu normal. Il n'y a pas de connaissance ni de rencontre.
C'est le premier point.
Et donc, cette génération-là, justement, arrive. On l'a mis souvent dans des écoles catholiques. Ils ont suivi la catéchèse parce que tout le monde le fait. Ils assistent même à des messes parce qu'on y va forcément. On fait même un pèlerinage à Lourdes ou à Rome parce que toute la classe y va. Et donc, ils arrivent à 30 ans en se disant, mais moi, j'ai toutes les valeurs chrétiennes, je suis chrétien, enfin, j'accepte tout ça. Je dis, oui, mais t'es un païen. T'as pas fait ton engagement. Tu n'as pas exprimé publiquement ton adhérence en Christ. Parce que la foi chrétienne, c'est de suivre un homme, le Christ, c'est rien d'autre. C'est pas de réciter les commandements de l'Église, ce n'est pas de rappeler ce qu'est la morale de l'Église, ça vient après. C'est de dire, c'est la sequela Christi, la vie chrétienne, c'est suivre le Christ en latin, la suite du Christ. Donc je veux le suivre. Veux-tu suivre cet homme ? Demande le baptême. Donc certains, il faut montrer que dans le fait de « je veux être chrétien », il faut savoir pourquoi. Donc, il y a déjà le fait qu'ils ont déjà toute la culture, il ne manque plus d'activer l'engagement. Deuxième raison qui peut être nuancée, c'est qu'aujourd'hui, on se dit, après des années de déshérence où il était de bon ton de dire qu'on n'était pas croyant, on le voit dans les médias, ça c'est clair, mais on le voit dans l'ambiance, aujourd'hui, une nouvelle génération dit « on veut du sens, on pense que la religion chrétienne n'a pas dit son dernier mot, et que finalement, c'est bien que l'on affirme cette identité chrétienne, et j'insiste sur le mot identité qui peut être piégé, mais là, je ne voudrais pas qu'il le soit, c'est-à-dire ce marqueur qui fait que je suis dans une culture qui a fait sa preuve, je veux la prendre pour mienne, donc maintenant, je m'engage, alors que mes parents, ça fait longtemps qu'ils ont tout bazardé, et je ne veux pas non plus porter le poids sur l'opprobre sur les parents, parce que bon, ils étaient dans l'époque, comme nous le sommes tous. Et donc, et puis aussi, de manière négative, il n'y en a pas que pour les musulmans. Parce que cette idée existe aussi. On ne peut pas non plus passer à côté. Et la troisième raison, extrêmement importante, qui a toujours existé, c'est que d'un coup, sans que je sache pourquoi, je fais une rencontre personnelle du Christ. Ça a toujours existé, Dieu merci, une sorte de grâce qui nous arrive. Mais quoi qu'il arrive, quand on entre dans le chemin du catéchuménat, c'est est-ce que ceux qui accompagnent les futurs baptisés leur donnent le goût de la parole de Dieu ? Et si je pose la question, c'est que ce n'est pas sûr que ce soit le cas. J'ai entendu beaucoup de jeunes adultes qui sont accompagnés. Leur catéchèse consiste à lire le catéchisme de l'Église catholique. D'abord, c'est écrit pour les évêques, pas pour le peuple. Et ce n'est pas comme ça qu'on commence. Et donc, ils arrivent au baptême.
Pourquoi on commence par la Bible ?
On commence par lire un évangile complet, pour ne pas dire les quatre évangiles. Parce que je deviens chrétien, donc je deviens adepte du Christ. Je porte dans mon identité religieuse, mon marqueur religieux, je suis l'homme du Christ. Chrétien, je ne suis pas déiste, je ne sais pas que je crois en Dieu, ça, je serais déiste dans ce cas. Je crois dans le Dieu révélé en Jésus-Christ. Eh bien, combien de chrétiens pourraient me dire « moi je suis croyant parce que je crois dans le Dieu Père révélé en Jésus-Christ » Très peu me le disent.
Vous avez parlé, qui peut changer une vie, est-ce que la Bible peut la provoquer ?
Oui. Ah oui, on connaît l'exemple célèbre d'Augustin qui a cherché dans toutes les écoles et sectes philosophiques et religieuses de son temps. Alors, il a cherché partout, c'était un chercheur opiniâtre et acharné, c'est pour ça que je l'aime beaucoup.
5e siècle ?
5e siècle, oui, il est mort en 430, au moment où Rome s'effondre, il est né en 354. Et à un moment donné, d'un coup, il entend cette comptine d'un enfant, c'est comme ça qu'il raconte, « tolle léger, prends Élie, il ouvre la parole et vous devez revêtir l'homme nouveau, parole de saint Paul, et ça change sa vie. » Donc oui, la parole de Dieu, heureusement, si elle est vivante, c'est qu'elle provoque en nous un sursaut de vie, une réaction. Le vivant, ce ne sont que des réactions qui ne cessent de nous traverser, de nous transformer, sinon ce n'est pas vivant, sinon ce serait une pièce de musée. Or la Bible et la parole de Dieu n'est pas un musée. Mais pour la rendre vivante, il faut qu'on l'entende, il faut qu'on la mette en action. C'est aussi la pratique, c'est aussi notre engagement social que suscite, on va dire, une morale religieuse, qu'elle soit juive ou chrétienne.
Ça, c'est important ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que la Bible, évidemment, ce sont des textes, ça se lit, mais ça se vit aussi.
Et ça se pratique, évidemment. C'est pour ça que je dis que la foi chrétienne, c'est la sequela Christi, c'est la suite de cet homme. Et cet homme nous emmène dans des chemins inconnus, dans des chemins que nous ne voulions pas emprunter. Il le dira lui-même. Un jour, quelqu'un d'autre te mettra la ceinture au rein. Il nous entraîne dans des endroits heureux aussi, mais je ne sais pas où me conduit le Christ. Ça, c'est qu'au terme d'une vie, quand vous faites une relecture de vie, ce qui est un grand trésor de la vie spirituelle des chrétiens, les jésuites l'ont mis en avant, mais enfin pas qu'eux aussi, on a une tradition augustinienne aussi qui met en avant cette relecture de vie à l'image des confessions d'Augustin, et bien ça nous permet de voir que petit à petit, ce qui me semblait ténébreux, complètement pagaillou, finalement prend un sens et un ordonnancement et que je peux moi-même dire, oui, là je pense que Dieu m'a vraiment ouvert une perspective, là il y a eu telle personne que j'ai rencontrée, là j'ai été pris à mon propre dépourvu et je rencontre la puissance de Dieu dans ma vie, mais elle passe toujours par des médiations. C'est mon frère, c'est mon compagnon, ma compagne, mes enfants, c'est des personnes qui autour de moi d'un coup illuminent mon quotidien et donnent un sens nouveau. Souvent, c'est pas grand-chose, mais ce pas grand-chose, c'est l'essentiel qui peut fonder une vie heureuse à la suite du Christ. Si je suis croyant, c'est un choix de vie heureux et pas un choix de vie de contraintes et d'obligations et d'interdits et de commandements mal compris. Ça, c'est une forme de dictature, c'est une forme de pensée qui n'en est pas une, parce que là, d'autres ont pensé pour moi, d'autres vont me dire ce que je dois faire. Non, l'autre, c'est le Christ. Et j'ai assez à faire avec lui pour ne pas m'en laisser compter par des gens qui voudraient m'imposer leur propre point de vue.
On va terminer justement en parlant de Jésus de Nazareth, cet homme, fils de Dieu, qui lui-même, alors je ne sais pas si on peut dire qu'il lisait la Bible, mais en tout cas, il priait un certain nombre des textes que nous lisons ou que nous prions nous aussi aujourd'hui.
Oui.
Parce que ce sont des textes qui sont communs aux Juifs et aux chrétiens.
Le Christ est né juif, a vécu juif, est mort juif. Sur la croix, il est inscrit INRI, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et moi qui suis son adepte, je ne suis pas juif. C'est un paradoxe. Le Christ est venu revisiter les fondements et la source de la religion juive à travers les Écritures. Il avait montré que cette religion s'était égarée en corsetant finalement l'humanité dans un ensemble de plus de 623 commandements que personne ne pouvait quasiment appliquer. Même les pharisiens, je pense, les plus authentiques n'y arrivaient pas. Donc il dit, mais Dieu ne nous a pas donné la loi pour nous emprisonner. Il a donné pour canaliser notre chemin, parce qu'il connaissait suffisamment la nature humaine pour voir qu'elle pouvait aller dans les fourrés les plus obscures. Donc il les a balisés. Et c'est pour nous rendre libres, pour nous faire accéder à notre propre libération de tout ce qui nous entrave, à commencer par le mal, celui que je commets, celui que je subis. Et le Christ est venu revisiter tout cela de manière puissante et tout à fait novatrice. Et on ne l'a pas compris, parce que je pense que le mécanisme religieux que beaucoup d'historiens ou de philosophes ont bien sûr démontré depuis longtemps a été plus fort que tout. C'est-à-dire qu'il fallait que l'un de nous souffrit pour racheter l'humanité. Très bien, on connaît tout cela. Enfin, on en est conscient, en tout cas. Mais le Christ sera jusqu'au bout de cette mission. Il ne retiendra rien pour lui, il donnera tout. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup le Christ. C'est-à-dire qu'en donnant tout, il m'ouvre un propre chemin de libération. Moi, si je suis devenu chrétien, bien sûr, mes parents m'ont baptisé quand j'avais moi, mais à un moment donné dans ma vie d'adolescent, j'ai fait le choix définitivement de croire, oui Seigneur, je suivrai ton chemin, jusque dans ce chemin très particulier qu'est la vie religieuse. J'en suis l'homme infiniment heureux aujourd'hui parce que j'ai été dans un chemin de vie qui ne cherchait le Christ. Nous nous cherchons mutuellement et le Christ, vous avez dit, priait les psaumes, oui, parce qu'il était juif. Il était incarné dans une religion et dans un peuple petit et très particulier et très singulier. Mais ce qui fait qu'on en parle aujourd'hui, c'est pas qu'il était juif, c'est qu'à sa mort, on dit non, il est toujours vivant. Personne n'a été témoin de la résurrection comme phénomène. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup ont été témoins de l'expérience qu'il est toujours vivant dans ma vie. En ce temps-là, comme aujourd'hui. Jésus m'accompagne par sa parole, il m'accompagne simplement par la manière dont il ouvre mon esprit en tentant de comprendre ce qu'on ne cessait de se dire, qui je suis, vers quelle destinée finalement je cours. Enfin, il m'accompagne dans ce chemin, c'est un véritable compagnon. C'est pour cela, je pense, que le texte d'Emmaüs, qui est très bien construit, très bien écrit évidemment, est un texte fondamental pour dire finalement la nature de notre croyance et de notre foi que nous posons dans le Christ Jésus, mort et ressuscité pour nous, et là je vous dis mon credo, mort et ressuscité pour nous, pour nous ouvrir un chemin de salut. Ça, c'est le chemin d'Emmaüs reste inépuisable de ce point de vue-là. Et on n'a pas fini d'en parler. Vous savez qu'il y a deux compagnons, l'un qui a un nom et l'autre qui ne l'a pas. Bon, cet anonymat du deuxième compagnon est un grand chemin de liberté pour nous et de libération, parce qu'on peut, si, on peut s'y configurer.
Merci beaucoup Sylvain Gasser.
Merci Véronique pour ce temps vraiment puissant de partage autour de la parole de Dieu. Merci.
Merci. Voilà, c'est sur ces mots que se termine cette série de podcasts. Tous mes remerciements à Sylvain Gasser d'avoir accepté d'y participer. Il est religieux assomptionniste et prêtre, il est éditeur chez Bayard et musicologue. Et puis bien sûr, vous avez pu l'entendre, c'est un passionné de la Bible.